Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du mercredi. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, virus, distanciation sociale, présentiel, mais aussi manspreading ou encore selfie, les mots de l'époque. Ces mots nouveaux, ces mots virtuels, ces mots de combat, que disent-ils de nous ? Portrait de l'époque, portrait de la France d'aujourd'hui avec la linguiste Julie Neveu à partir de 12h55. Mais d'abord, toujours confinés, le théâtre et la danse retiennent leur souffle. Tous deux comédiens et metteurs en scène, Simon Abkarian et Charles Berling ont signé une lettre ouverte à la ministre de la Culture, publiée dans l'Obs la semaine dernière, où ils évoquent, avec d'autres artistes, le drame que vit le spectacle vivant depuis le début de la crise sanitaire et où ils mettent en garde contre le recours systématique au numérique. Aucune plateforme ne remplacera jamais le plaisir de la salle. Alors, quelles solutions se dessinent ? Ils sont nos invités jusqu'à midi et demi à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Et bonjour à vous, Simon Abkarian.
Bonjour.
Et bonjour, Charles Berling.
Bonjour.
Alors, on n'a pas le droit d'être tous les trois réunis dans un studio. Encore, pour l'instant, ça se passe aussi comme ça à la radio. La contrainte sanitaire pèse aussi sur les conditions de ce rassemblement. Mais on va créer ce dialogue à distance avec vous, Charles Berling, et avec vous, Simon Abkarian, ici présent. Comment avez-vous vécu, tous les deux, occupé votre temps durant ce deuxième confinement où les théâtres ont à nouveau fermé, mais où les répétitions ont pu avoir lieu, Simon Abkarian ?
J'étais au Théâtre du Soleil, le Théâtre du Soleil en pleine répétition en ce moment, donc j'ai été les voir, j'ai été travailler avec eux, j'ai été me nourrir, j'ai été faire ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer, enfin, ce que j'essaye de faire bien, jouer.
Le Théâtre du Soleil, c'est un peu votre théâtre depuis quelque temps. C'est là où votre mise en scène d'Electre des Bas-Fonds a été jouée, a remporté d'ailleurs 3 Molières cette année, pièce créée l'an passé. Et avant le confinement, vous aviez repris avec Ariane Ascaride le dernier jour du jeûne dans le texte est publié chez Actes Sud. La pièce, elle va reprendre après le 15, parce qu'elle a été suspendue pour l'instant.
Ouais. On va recommencer à jouer à partir du 17 jusqu'au 3 janvier. Et on devait jouer 3 mois. On a joué 4 fois en novembre, je crois. Je sais plus les mois, j'aurais pu savoir de quel mois on est, enfin bref. Et plus les 7 ou 8 fois qu'on va jouer, ou 12 fois qu'on va jouer là, ça fera 18 fois. Je pense, j'espère qu'on reprendra soit la saison prochaine, soit celle d'après, les 3 mois qu'on devait faire ici au Théâtre de Paris.
Au Théâtre de Paris.
Ouais.
Charles Berling, de votre côté, en septembre cette année, vous aviez lancé votre saison théâtrale avec une programmation transversale autour de l'océan, Passion Bleue suspendue, là encore.
Oui, on avait effectivement des gros week-ends avec des artistes, des scientifiques, des gens de la mer qui se rencontraient pour parler de la mer et pour parler du présent et de l'avenir. Et effectivement, ça s'est interrompu. Comme là, je jouais aussi dans les Parents terribles de Cocteau avec Muriel Mayette, entre autres. Et ça s'est aussi arrêté bien fin octobre, comme tout le monde. Bon, après, moi, je suis aussi directeur de deux théâtres, puis d'une scène nationale qui s'appelle Château Vallon Liberté. Donc, il y avait beaucoup de travail parce que il fallait comprendre comment faire répéter des compagnies, comment soutenir les artistes et les compagnies qui, pour l'instant, les institutions elles-mêmes tiennent grâce à leur subventionnement, mais disons qu'il y a beaucoup de dégâts dans la profession et surtout les plus fragiles et les plus indépendants. Donc il y avait beaucoup de travail pour réimaginer la saison d'après, réimaginer les reports, comment annuler, comment soutenir en même temps. Et puis on a pu ouvrir, grâce à cette idée que les répétitions étaient possibles, on a pu ouvrir nos salles pour créer du travail, quoi. J'ai moi-même commencé un spectacle sur Hannah Arendt et d'ailleurs, par les temps qui courent, ça me donne une sorte de poumon fantastique de pouvoir répéter et travailler autour des textes de cette dame qui parle tellement bien de ce qui se passe aujourd'hui.
Parce qu'Hannah Arendt a des choses à dire de cette époque, de la nôtre, de ce moment dans lequel nous vivons.
C'est bouleversant parce qu'elle parle tellement bien de la société de masse. N'oublions pas qu'elle en parle dans les années 30, ensuite 50, 60, et que aujourd'hui on est en 2020 et que tout ce qu'elle raconte, c'est hallucinant de vérité, de sur la société des loisirs, le divertissement face à la culture, face à l'art. Et je crois que si j'ai signé moi aussi cette tribune par rapport au streaming, par rapport au au pillage organisé que ça peut être de la part de ces grands tuyaux américains, Facebook, YouTube, et qui tout d'un coup se servent dans la culture qui est construite démocratiquement, de façon, parce que justement cette culture est soutenue et n'est pas traitée comme un produit. Et elle en parle, enfin, il y a des textes qui racontent tellement bien la dérive que peut être la société de loisirs, la société du divertissement, où on deviendrait un produit comme un autre. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, on est à un endroit précis de cette confrontation.
Je rembobine un tout petit peu le film pour essayer d'expliquer cette lettre ouverte et ce qu'elle porte en elle. Vous avez donc tous les deux signé cette pétition, lettre ouverte à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, initiée par les comédiens Alain Fromager et Caroline Proust, aux côtés de Alain Françon, Mathilde Monnier, Reda Kateb, sur la réouverture des théâtres, sur l'état de santé aussi du spectacle vivant et sur la concurrence des plateformes que Charles Berling vient d'évoquer. L'utilisation de plateformes avec diffusion de spectacles en direct, c'est ça la vraie nouveauté de ce deuxième confinement. Les comédiens sont là, ils sont sur scène et le partage se fait directement, sans décalage horaire. Et pourtant, vous parlez vous aussi, Simon Abkarian, vous reprendriez les termes de cette tribune d'une illusion de spectacle vivant. En quoi ?
Alors, comment dire ? Le fait de faire du théâtre, c'est déjà, comment dire ? Un miracle en soi, quelque chose qui tient d'utopie démocratique. Voilà, c'est-à-dire que voir un État qui subventionne ses artistes, ses créatrices et ses créateurs, c'est déjà quelque chose, c'est un pas vers un monde meilleur. Moi, c'est mon avis. L'illusion, elle tiendrait à ça, c'est-à-dire que c'est tellement fragile. Nous, artistes et femmes et hommes qui avons embrassé cette vie, parce que c'est un mode de vie, c'est aussi embrasser l'idée de la précarité, c'est-à-dire de la difficulté. Ça, on l'a. Du coup, ça nous rend fort quand des cataclysmes comme celui-ci se présentent à nous. On est fort, on a les anticorps de ça. Le danger, ça peut être de se dire, bah, puisqu'ils sont forts, ils vont résister. Moi, je dirais, bon, illusion, c'est peut-être pas le mot exact, mais je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie. Cette chose qu'on appelle le théâtre public ou le théâtre privé ou le théâtre tout court, le fait de s'enfermer dans une salle où des gens éteignent les lumières et ils payent pour venir écouter une histoire où d'autres gens en face d'eux se sont maquillés ou pas, ou costumés ou pas, et raconter une histoire qui fera que leur monde sera plus clair en eux, ou c'est pas pour oublier. Justement, la question du divertissement, elle est pas inintéressante, parce que je pense qu'il faut se divertir, mais je pense que le divertissement n'empêche pas la réflexion. Or, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que, et ça c'est dû à la consommation, et la consommation qui est due à ce capitalisme déviant, dire que ne réfléchissez pas, bouffez quoi.
Et en tout cas, cette utopie, elle vous semble rétrécie, elle vous semble étriquée quand ça se passe par écran interposé. Mais on peut quand même se dire aussi que c'était mieux que rien pendant cette période, d'avoir pu garder à travers ça le lien avec le public.
Je pense que c'était une occasion de rappeler Madame la ministre je dis pas qu'elle le fait pas, mais je veux dire de la rappeler au débat, de la rappeler à la parole, de la rappeler à la réflexion. C'est pas juste une espèce de dire une convocation inquiète. Ça, moi, je pense que le théâtre, il se reproduira toujours, puisqu'il produit, comme disait Jean-Claude Carrière, le péché originel. Il se reproduit, le théâtre, avec le public. Et ça, aucune plateforme ne pourrait la remplacer.
Charles Berling.
Je crois pas qu'on peut dire que c'est mieux que rien. C'est-à-dire, c'est la survie adaptative, c'est pas mieux que rien. C'est-à-dire, justement, Fromager et Caroline Proust, ils travaillaient sur des textes de Duras qui parlent du silence. C'est-à-dire que il y a aussi possibilité. Moi, j'ai pas cherché dans mon théâtre à exister absolument par ces voies-là. Évidemment, on existe naturellement toute l'année à travers ça, autour du spectacle. Mais je crois que c'est une erreur de penser qu'on va s'en sortir en essayant de combler cette espèce de vide de lien, d'inexistence du lien, parce que physiquement on peut pas se rencontrer, par ces voies-là. Parce qu'elles sont, je crois qu'elles sont pas, ça n'est pas la même chose. On peut faire un travail autour du spectacle vivant avec ces médias, avec ce langage, mais on ne peut pas le remplacer. Et donc, commencez. Si vous avez vu, par exemple, les retransmissions à la Comédie Française de spectacles où vous avez les gens qui tapent sur leur clavier, tiens, elle a grossi, tiens, tiens, là, c'est pas mal, ah ben non, là, je m'ennuie. Vous voyez, c'est-à-dire, on n'est plus dans la pensée. On est dans un jugement lapidaire, complètement stupide. Et ça n'est pas ça, la culture. Ça n'est pas ça, le théâtre. Au théâtre, comme le disait Simon tout à l'heure, il y a des gens qui viennent, qui acceptent d'être en silence pour écouter une histoire, pour regarder des artistes à ce moment-là se mettre en route pour eux.
Et la réaction, elle est intérieure, hein, parce que vous signalez autre chose dans cette tribune, Charles Berling, c'est que vous pointez en fait ensemble le caractère immédiatement mesurable aussi de la représentation, cette vision assez comptable et mercantile de la culture avec une sorte de machine à tri qui pourrait se mettre en place et favoriser aussi les grosses productions qui ont les moyens de communiquer sur leurs affiches et dont on va pouvoir dire « Ah, regardez, elle a fait beaucoup de clics », là où une autre qui n'aura pas eu la même capacité à communiquer sur cette diffusion en direct risque très vite de sombrer et de ne pas retrouver l'expérience dans des salles après.
Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que non, la culture, l'art n'est pas une marchandise comme les autres. Non, nous devons refuser ça. Or, mettre un pied là-dedans, commencer à admettre ça parce qu'on voudrait exister, c'est un suicide. C'est-à-dire que c'est la négation de l'idée même de la culture, de sa fonction même. Et ça, Arendt le dit aussi. C'est de l'inutile, si vous voulez. C'est de l'inutile qui est plus qu'utile. Si vous commencez à vouloir que ça soit un processus mercantile, un processus de production absolue, vous êtes foutu. Ça n'est pas ça, l'art. L'art, c'est quelque chose qui est ailleurs, qui a un endroit qui est beaucoup plus fort, qui est un endroit à l'extérieur aussi de cette machine et qui peut la critiquer et qui a cette liberté-là. Si vous commencez, je crois que c'est Faustien comme problème aujourd'hui. Et c'est terrible. C'est-à-dire que, et c'est ça que cette tribune dénonce, parce que par exemple, on dit, bon, bah, quand même, c'est mieux que rien. Mais à chaque fois qu'on vous propose, moi on me l'a proposé aussi. À chaque fois qu'on vous propose ça, on vous dit alors bon, c'est pas payé parce que bon, évidemment, Internet c'est gratuit. Enfin, mais ça n'est pas gratuit Internet. Ça c'est ce qu'on nous a vendu déjà il y a 25 ans que c'était quelque chose de démocratique, de pas qui un partage. Que c'était, mais c'est faux. Tout ça est une arnaque totale. Et c'est une arnaque de capitaliste, si vous voulez. Mais
alors il y a quand même. Oui, mais il y a quand même autre chose, Charles Berling. Pardon de vous interrompre. Et c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui mettait en avant, c'est le changement des pratiques culturelles des Français. Alors, c'est le cas aussi pour les films. Hein. Combien de temps encore les salles de cinéma vont-elles pouvoir être protégées, comme elles le sont en France, et c'est bien sûr, aussi à travers la chronologie des médias, alors que pendant ce premier confinement, puis ce deuxième, on a aussi découvert, et c'était pas nouveau, la présence de grandes plateformes comme Netflix, qui permettent de consommer, alors vous n'aimerez peut-être pas le terme, mais de regarder des films directement de chez soi. Et pour le théâtre, est-ce que c'est la même chose qui vaut. La question de ce fossé qui se creuse entre culture patrimoniale et culture numérique, je vous propose d'écouter les mots de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle était l'invitée de notre confrère Emmanuel Laurentin dans l'émission Le Temps du Débat. C'était le 19 novembre dernier.
Le changement des pratiques culturelles des Français, avec l'opposition entre la culture patrimoniale et la culture numérique, devient l'enjeu principal de la politique culturelle. Avec véritablement l'accroissement des inégalités sociales, on voit que les cultures patrimoniales sont la pratique des gens âgés, des femmes, des urbains, des classes supérieures, et que de plus en plus, les garçons jeunes, ceux qui vont, hélas, enfin tant mieux, être de plus en plus nombreux, vraiment ont la pratique de la culture numérique. Et ça, c'est véritablement la chose qui m'habite quand j'arrive au ministère de la Culture. Ce mouvement, je le connais, parce que je suis évidemment les politiques culturelles depuis des années, et je me dis que ce travail de réconciliation entre la culture patrimoniale et la culture numérique, de décloisonnement des cultures et de protection de la création à partir de là, parce que en fait, derrière tout ça, c'est la protection de la création artistique et pas seulement de la consommation artistique qui est en jeu. C'est vraiment mon boulot.
Simon Abkarian, est-ce que vous avez vraiment raison de les opposer? Pourquoi ne pas essayer de croire à cette option de la réconciliation, autrement dit, de penser cette question sous l'angle de la complémentarité?
Non, mais ça m'énerve quand j'entends ça. Moi, ça meurt de moi. Quand j'entends des propos pareils, ça m'énerve. C'est ce qu'il faut décloisonner, c'est le cloisonnement social. C'est pas un cloisonnement intellectuel ni autre chose. C'est juste un cloisonnement social. Pourquoi ça veut dire que les uns vont exercer certains types de métiers et les autres vont avoir accès à des métiers autres? C'est faux. Il faut juste décloisonner socialement. Moi, je fais du théâtre depuis 35 ans. Je les ai vus, les élèves arriver. J'en ai fait des stages dans les lycées à Bobigny, à droite, à gauche. J'en ai fait des rencontres avec des lycéens à Toulouse ou ailleurs qui rêvent aussi de s'ouvrir à ça. C'est faux que de dire une chose pareille. C'est complètement débile. C'est un mensonge absolu de dire une chose pareille. Les garçons, ceci. Donc, on recommence la vieille rengaine des années 30, quoi. On se dit, tiens, ben, lui, il est comme si Rémi, il va faire mécanicien et Colette, elle va faire de la couture. Mais c'est quoi ces conneries?
Bah, elle évoque quand même la question de l'accès à la culture.
L'accès, il faut le donner. Mais d'accord, mais si on est cloisonné socialement, on a de moins en moins accès aux choses qui sont censées être le bien de tous et du plus grand nombre et de toutes. C'est juste une volonté politique que de décloisonner.
Le repli sur le numérique, Simon Abkarian, cette solution, le temps du confinement, est-ce que vous pensez qu'elle correspond vraiment pour le spectacle vivant à un changement durable des usages?
Non, je pense pas, non. C'est, on verra après la guerre, comme on dit, puisqu'il a dit que c'était une guerre, monsieur le président.
Mais en septembre déjà, vous avez vu les gens revenir dans les théâtres?
Oui, bien sûr. Et vous savez quoi? Ils célébraient le fait d'être revenus. Ils le célébraient, ils s'applaudissaient eux-mêmes à la fin. C'est plus nous qu'ils applaudissaient. C'était le fait d'être là au théâtre qu'ils applaudissaient.
Et alors, qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Sorti cette période de conflit?
Rien. C'est les charabias politiques qui m'inquiètent autour de ça. C'est de créer un problème là où il n'y en a pas. Le numérique, c'est le numérique, le théâtre, c'est le théâtre, la danse. Vous aurez jamais la même sensation d'entendre un concert. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais je vais le redire. Et voir un opéra à la télé qui fait du direct, c'est pas le voir, comme en live, en vie, quoi. C'est pas la même chose. Donc, chaque chose a son endroit, c'est tout. Ça sert à ça, voilà. Il y a Netflix, c'est ce que c'est. 80% des productions de Netflix, on sait ce que c'est. C'est écrit avec les pieds, c'est réalisé avec un flingue sur la tête et en disant, voilà, tu vas faire ta série en 5 semaines. Ouais. Voilà, c'est ça aussi la réalité de Netflix. Je sais un petit peu de quoi je parle parce que j'en ai fait des séries. Et quand ça marchait bien, au début, on avait 8 semaines de tournage. Quand ça marchait bien, on n'avait plus que 7 et ainsi de suite. Donc l'obsession de rentabilité et de faire de l'oseille sur le dos des artistes en ce qui concerne les plateformes ne s'arrêtera pas. Et le seul espace de liberté qui reste encore d'expression, c'est la scène vivante, c'est les danseurs, les danseuses. Tiens, bah parlons-en des danseurs et des danseuses. Là, il y a personne qui a réfléchi à dire tiens, bah on va faire des spectacles. Les danseurs, les danseuses, ils travaillent, ils payent eux-mêmes leurs répétitions. Il faut qu'ils entretiennent leur corps. Et la fois qu'ils jouent ou ils jouent deux fois et c'est marre. Après, ils font un peu de tournée et c'est marre. Et c'est un autre projet qui recommence. Mais entre les deux projets, ils payent et elles payent de leur poche.
Fin octobre, la comédienne Ariane Ascaride, qui est sur les planches avec vous, Simon Abkarian, dans le dernier jour du jeûne, déplorait l'absence du beau mot de culture dans la première allocution d'Emmanuel Macron. Votre silence m'a démoli, a-t-elle réagi dans une lettre qu'elle lit ici. On en écoute un extrait.
Monsieur le Président, ce qui a fait un trou à mon âme est l'absence dans votre discours du mot culture. Pas une fois il n'a été prononcé. Nous sommes la France, Monsieur le Président. Pays reconnu dans le monde entier et envié par tous pour la présence de sa créativité culturelle, la peinture, la musique, la littérature, la danse, l'architecture, le cinéma, le théâtre. Vous remarquerez que je cite mon outil de travail en dernier. Tous ces arts sont dans ce pays des lettres de noblesse que les hommes et les femmes du monde entier admirent. C'est un pays où marcher dans les rues raconte l'histoire du monde, où la parole dans les cinémas et les théâtres apaise, réjouit, porte à la réflexion et au rêve ces anonymes qui s'assoient dans le noir pour respirer ensemble un temps donné. Nous sommes indispensables à l'âme humaine. Nous aidons à la soigner. Je ne parle même pas de tout le travail que nous faisons avec les psychiatres. Nous sommes des fous, des trublions, mais tous les rois en ont toujours eu besoin. Et hier soir, silence total.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
À Avec nous, deux comédiens, deux metteurs en scène, directeur aussi de théâtre d'une salle, Charles Berling, qui est avec nous à distance, et vous, Simon Abkarian, avec nous en studio. On écoutait les mots forts d'Ariane Ascaride sur les silences, les omissions des pouvoirs publics sur la culture lors de ce deuxième confinement, une fois encore. Charles Berling, on a évoqué à l'instant la question de la réconciliation, de la complémentarité entre les pratiques, se pose aussi, et vous avez commencé à l'évoquer, celle des sous. Hein, dans le plan de relance, il y aura 400 millions d'euros consacrés à la transition numérique, disait aussi la ministre de la Culture. Mais on ne peut pas prendre le goût d'une culture gratuite. Elle l'a rappelé, elle a insisté sur ce point aussi. La création doit être rémunérée. Quelle réglementation, quelle protection de l'œuvre et quelle rémunération quand la diffusion se fait via les plateformes? Il faut peut-être expliquer ça aussi à ceux qui nous écoutent.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Non, oui, justement, ça rejoint un petit peu. Je voulais réagir à ce que disait la ministre. J'ai un point de vue qui est complémentaire, je dirais, de celui de Simon. Simplement, cette histoire de sociétale, comme quoi le numérique, maintenant, depuis des décennies, c'est vraiment installé dans la pratique, disons entre guillemets, de culture, en tout cas de culture de masse même. Ça c'est clair, c'est évident. Et tout le travail qu'on fait quand on dirige un théâtre, et c'est la question que pose la ministre de la Culture, c'est comment faire pour faire que ces lieux culturels vivants qui ne pratiquent pas ça, qui ne sont pas basés là-dessus, qu'on n'est pas sur un canapé à passer sa journée à regarder un écran. C'est le contraire, on sort de chez soi, on va à la rencontre de gens physiquement, etc. Donc ça, moi je sais que ça fait plus de 40 ans que je fais du théâtre et du théâtre subventionné, et du théâtre privé, et du cinéma, et de la télé, et que je me pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut ne pas céder à cette facilité, disons, de la culture de masse, de quelque chose qui fait qu'on brosse les gens dans le sens du poil, qu'on leur raconte des histoires qui surtout les fait pas réfléchir, parce que comme ça les endort un peu. Donc ça, cette lutte-là, Elle s'accentue aujourd'hui parce que on est face à un monstre, à quelque chose qui est tentaculaire, à quelque chose qui a un pouvoir énorme. Et ce que je disais tout à l'heure sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est clair. Et donc la réponse des politiques, elle doit être de défendre absolument, parce que nous sommes d'une fragilité extrême. Et c'est ce que disait Ariane dans son très beau texte. C'est-à-dire, elle dit, il faut absolument, que vous parliez de ça, que vous compreniez que c'est une chose absolument essentielle. Ça n'est pas quelque chose qui est anodin. Aujourd'hui, ce qui se joue, Simon le disait aussi, c'est quelque chose de très grave, et quelque chose de très profond, et quelque chose d'extrêmement... c'est un combat qui va faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Et les politiques... Et quand Macron et Castex ils ne parlent pas de culture, nous on l'entend immédiatement comme quelque chose d'extrêmement grave, parce que sémantiquement, symboliquement, pratiquement, ça va avoir des répercussions sur le fait qu'on ne va pas défendre cette chose qui est considérée, après tout, par beaucoup de gens comme totalement inutile.
Simon Abkarian, le langage est justement au cœur de cette pièce que l'on retrouvera à partir du 15 décembre, le dernier jour du jeûne, que vous mettez en scène et dans laquelle vous jouez également le langage, la langue au service des femmes, au service d'un combat, la lutte contre le patriarcat, la domination masculine. Cette langue qui est votre outil de travail premier quand vous êtes au cinéma ou au théâtre, vous, les comédiens, vous, les metteurs en scène, et les dramaturges, quels mots vous voulez mettre aujourd'hui sur ce silence des pouvoirs publics, derrière ce beau mot de culture, qu'est-ce qu'il y a? Quel sens vous donnez à votre art aujourd'hui?
Moi, à mon travail, je ne sais pas, je pense qu'on est un peu, on peut être considéré comme aussi des intercesseurs. En ce qui concerne les réflexions, celles qui sont évidentes et celles qui sont à venir, à découvrir. Vous savez, à l'époque, on excommuniait les acteurs, on les jetait dans la fosse commune. Je pense que le clergé avait compris qu'on était plus pauvres qu'eux, mais sur scène, on était meilleurs. Je pense...
Par la parole.
Par la parole, mm-hmm. Évidemment, parce que c'est le verbe. Nous détenons le verbe. Même si on fait des spectacles, il y a d'images, c'est un verbe. L'expression artistique est un verbe, est un geste qui implique la création, quoi. La création dans le sens cosmique du terme, je dirais. Moi, je pense qu'un pays... Tout à l'heure, quand je suis rentré à la Radio France, je me disais, voilà, ça, c'est la démocratie. D'avoir construit un endroit comme ça, qui fonctionne comme ça fonctionne. Et ça va de même pour les théâtres. Je pense que c'est le signe d'une bonne santé, de la bonne santé d'un pays, d'une démocratie, à ces théâtres, la diversité de ces théâtres, la diversité de son cinéma, la diversité de ces scènes vivantes. Et quand ça n'existe plus, il faut très très vite se poser des questions quant à la qualité des eaux, quoi. Nous sommes les truites, les écrevisses du monde démocratique. Si nous on meurt les premiers, c'est parce qu'on est les plus fragiles et les plus sensibles à la pollution intellectuelle et politique.
Nous sommes les écrevisses de ce monde et de cette démocratie, dit Simon Abkarian. Et vous, Charles Berling, pour conclure, quel mot mettez-vous sur ce silence ?
Ben, on n'est pas un supplément d'âme, on est de l'âme. On est l'âme. Et quel pays, qui peut vivre sans rêver, sans inventer, sans créer, sans... Qui va pas pouvoir faire ça? Juste consommer des produits manufacturés à la va-vite, non.
Merci beaucoup à vous, Charles Berling. Le théâtre Château Vallon Liberté à Toulon, c'est donc cette scène dont vous vous occupez, que vous dirigez depuis 10 ans, qui rouvrira ses portes à la mi-décembre.
Ah oui, le 15 décembre.
Vous avez préparé la réouverture.
Bien sûr, activement, et on s'est débrouillé pour reporter des spectacles qui étaient dans le confinement entre le 15 et le 20. On va faire, disons, on va faire revivre au maximum ces salles et les gens reviennent. Là, on a eu les répétitions d'Oblomov qu'a monté Robert Renucci, magnifique spectacle. On était 25 dans la salle parce qu'il y avait juste l'équipe pour regarder leur sortie de résidence, leur travail. Et quand on voyait ce spectacle sublime, on se dit, mais c'est atroce. C'est-à-dire là, ils n'allaient pas recommencer tout de suite. Il fallait attendre 2 ans avant qu'ils retrouvent des salles de diffusion. C'est terrible.
Et ça revient.
Donc oui,
il y aura Blanche-Neige. Et il y aura mise en scène par Michel Raskin.
Exactement.
Voilà.
Oui, tout à fait. Emmanuel Mérieux, Nawal Lagra qui va aussi avec ses premiers pas avec Abou Lagra. Enfin bref.
Voilà. Emmanuel Mérieux, c'est Les Naufragés, hein, d'après le très beau texte de Patrick Declercq.
C'est très très beau.
On vous invite à aller le voir. Ce sera les 18 et 19 décembre. Courez-y à Toulon au théâtre Château Vallon Liberté. Merci à vous aussi, Simon Abkarian. On vous retrouve à partir du 15 décembre au Théâtre de Paris pour cette pièce, cette reprise, cette création avec Ariane Ascaride. Et on vous remercie mille fois d'être passé autour de
ce micro. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Dans cette radio.